Chapitre 3. Il était à peine 9h30 lorsque la voiture franchit la grille de Briarwood. Les cinq fenêtres du salon éclairées tranchaient sur la vaporeuse obscurité de l'automne, et les notes du piano arrivèrent aux oreilles de Roderick au moment où il éteignait son cigare et gravissait le perron. « Ils y sont encore !» murmura Rory avec un geste d'ennui, lorsqu'entrant dans le vestibule, il entendit par la porte entr'ouverte du salon une série d'accords brillants. Rory aimait peu le piano. Il lui fallait de la musique simple et naturelle. « Le duc et la duchesse sont-ils ici ? » demanda-t-il au valet de pied. « Sa grâce et Lady Mabel sont ici, monsieur, mais le duc n'y est pas. Je ferais bien, je crois, de changer de toilette avant de me présenter devant leur seigneurie. » murmura Rory avec humeur, tout en montant précipitamment l'escalier afin d'échanger son vêtement de chasse et ses guêtres de cuir contre un costume noir qui devenait trop étroit. Rory avait en horreur l'habit noir et la cravate blanche. « Grande bête !» disait-il à son portrait vivant qu'il apercevait dans l'armoire à glace. « Vous ressemblez furieusement au garçon de café de Clarendon. » Le salon paraissait beaucoup trop vaste pour les trois femmes qui, ce soir-là, l'occupaient. C'était une jolie pièce dont les tentures s'accordaient à ravir, dans leur teinte ambre, avec le mobilier blanc et or, et les appliques en cristal contenaient des bougies allumées dont la lumière, se confondant avec celle d'un lustre très riche, inondait toute la pièce, pas de profondeur de fenêtre, pas un coin de porte qui fût dans l'ombre. Tout était froidement brillant et d'une élégance irréprochable. Rory détestait le salon de sa mère presque autant qu'il se détestait en habit noir. Les deux femmes étaient assises de chaque côté du feu, les pieds sur un tapis de fourrure blanche et soyeuse. La sœur de Lady Jane Vaudrey était une grande et forte femme, à la physionomie avenante, portant une robe de soie grise et n'ayant que fort peu l'air d'une duchesse. Lady Jane, elle, avait autant de dignité pour faire honneur au plus beau titre de l'almanach de Gotha. Elle portait une robe de velours noir garnie de dentelles et ressemblait à un portrait de princesse autrichienne peint par Velázquez. Les années n'avaient pas effleuré la pureté de son teint blond. Son nez aquilin, ses lèvres, son menton mince et ferme indiquaient une femme née pour commander. Ses cheveux blonds foncés n'avaient pas un seul fil d'argent. Femme admirable, assurément, en toute chose, sauf en son rôle de mère, comme se le disait souvent Rory. La jeune fille était assise au piano, loin des deux dames. Ses doigts effilés couraient sur les touches d'ivoire, se jouant des complications et des enlacements qui distinguent la musique moderne. Rory détestait ce genre de talent et ne comprenait pas le mérite de sa cousine, qui, depuis 7 ans, consacrait 3 ou 4 heures par jour à étudier cette haute voltige musicale. Elle abandonna son jeu et lui tendit ses deux petites mains lorsqu'il s'approcha du piano, après avoir salué sa tante. À quoi ressemblait-elle, cette jeune fille, chef-d'œuvre formée par l'amour maternel, cette perle unique et dernière de la couronne d'une mère, l'enfant de tant de prières, de tant d'espérances, de tant de craintes et de tant de joie? Elle était belle, d'une beauté absolue, et avec cette pureté, cette délicatesse d'harmonie et de détail, qui est par elle-même un charme. À étudier ce joyau aussi minutieusement que possible, on n'y eût pas trouvé un défaut. Les traits étaient si délicatement accentués, la peau si transparente, le corps si bien moulé. La main, les bras étaient la perfection même. Pas une ombre à la splendeur de cette charmante beauté. Elle leva ses grands yeux bleus vers Rory avec un sourire de si bon accueil que, quoique furieux d'avoir été ramené à la maison comme un écolier, il ne put lui refuser un sourire en échange du sien. Il l'accompagna même d'une légère pression de la main. « Alors, vous avez dîné avec ces horribles gens ?» lui dit-elle d'un air enjoué et d'un ton de doux reproche. « Pour votre dernière soirée, c'est très mal pour tante Jane. » « Je ne sais pas de qui vous parlez en disant « ces horribles gens, Mabel », répondit Rory en reprenant tout à coup sa mauvaise humeur. « Les personnes avec lesquelles je me trouvais sont très aimables. » « Vous n'êtes donc pas allé chez les Tempest ?» « Mais si, qu'avez-vous à dire contre eux ?»« Oh, rien, » dit Lady Mabel en haussant les épaules. « Il est des choses qu'on n'a pas besoin de dire. »« Monsieur Tempest est le meilleur homme du monde. Peut-être sa femme est-elle un zéro, mais elle n'est nullement désagréable, et sa fille... » Ici, Rory s'arrêta, et Lady Mabel partit d'un éclat de rire. « Sa fille est charmante, » dit-elle quand elle eut cessé de rire. « Elle a des cheveux rouges, porte un habit rouge à boutons d'or, rehaussé d'un gilet jaune, comme celui de son papa, le tout agrémenté d'une rose à la boutonnière. Je voudrais bien la voir dans Rotten Row. « Je vous garantis qu'il n'y aurait pas de meilleure écuyère, ni de plus jolie fille, » répondit Rory, rouge d'indignation. Lady Jane paraissait furieuse. Sa jeune cousine se mit encore à rire d'un ton clair, vibrant comme les notes brillantes qu'elle venait de faire entendre sur le piano. Mais ce rire n'en trahissait pas moins une mortification. « Rory est tout d'une pièce, » dit-elle. « Quand il aime les gens, il les trouve irréprochables. » « Alors, à vos yeux, Rory, cette petite fille aux cheveux rouges est une merveille, n'est-ce pas ?» poursuivit Lady Mabel en se rasseyant au piano et en appuyant doucement les doigts sur les touches d'ivoire, comme si elle eût voulu admirer les bagues qui ornaient ses doigts roses. On dit pourtant qu'elle sait à peine lire, et, à l'instar de Guillaume le Conquérant, elle fait, paraît-il, une croix au lieu de signer son nom. Elle passe son temps dans les écuries et ne se gêne pas pour jurer quand l'occasion s'en présente. « Je ne sais pas qui peut raconter ces choses-là, » s'écria Rory, exaspéré. « Mais ce que je sais bien, c'est que dans tout cela, il n'y a pas un mot de vrai. Violette Tempest est aussi bien élevée qu'une jeune fille peut l'être. Toutes les jeunes filles ne peuvent pas être des modèles. Si cela était, l'existence deviendrait intolérable. Dieu nous préserve d'un monde rempli de perfection. » Violette Tempest est presque encore une enfant gâtée si vous voulez, mais elle a un cœur d'or et une franchise de caractère sans égale. » Roderick, de rouge qu'il était, devint pâle en finissant sa phrase. Sa mère avait pâli au premier mot qui avait été dit sur Vixen. Le nom de cette jeune fille suffisait pour allumer la colère de Lady Jane. « Je pense qu'après vous avoir retenu loin de votre mère pour votre dernier jour de vacances, « Monsieur Tempest aurait dû avoir le bon goût de vous ménager un peu, » dit Lady Jane avec une rage contenue. « Je n'ai bu que deux verres de vin du Rhin pendant le dîner et rien de plus. Je ne crois pas que deux verres de vin en mangeant puissent me tourner la tête, » riposta Rory avec calme. « Oh, mais vous vous êtes abreuvé d'un nectar bien plus enivrant, » s'écria Lady Mabel, en accentuant nettement chaque mot avec une sorte de provocation. « Vous étiez avec Violette Tempest ?»« Allons donc, enfant, quelle querelle !» s'écria la duchesse. « Vous n'en feriez pas plus si vous étiez des amoureux. Venez ici, Rory, et racontez-moi tout ce que vous avez fait depuis que nous vous avons vus au mois de juillet. Qu'importe les Tempest, ils sont de bien peu d'importance. Il faut bien que Rory ait quelqu'un à voir quand nous n'y sommes pas. » Et maintenant que nous revenons, il part pour Oxford, dit Lady Mabel d'un air vexé. Mais alors, vous n'auriez pas dû rester si longtemps en Suisse, riposta Rory. C'était la première fois que j'y allais, et c'est si beau. Qu'ils m'ont paru loin de la réalité tous les paysages que j'avais faits autrefois au fusain, au crayon ou à l'aquarelle. J'y rougissais en y réfléchissant, j'étais honteuse en regardant le Mont Blanc. Il me semblait qu'il allait s'écrouler et m'écraser. « Je crois que j'irai aussi en Suisse, » dit Rory. « Vous auriez dû y venir avec nous cette année, » dit Lady Mabel. « Non, je ne le pouvais pas, je travaillais. Si vous saviez quelle dose d'Aristote il m'a fallu avaler, vous me plaindriez. Ah, les demoiselles sont plus heureuses que nous, Elles apprennent à lire un livre d'histoire dans deux ou trois langues différentes, à jouer un peu de piano, à gâcher un peu de papier à dessin, et puis leur éducation est terminée, tandis que nous, on nous fait remonter aux premiers âges pour nous apprendre ce que faisait une poignée de Grecs lorsqu'ils se couchaient au soleil pour discuter comme des fous. » Lady Mabel le regarda en souriant. « Seriez-vous surpris d'apprendre que je sais un peu de grec ?» dit-elle. « Juste assez pour comprendre les dialogues de Socrate avec l'aide de mon maître. » Rory sauta comme s'il avait été mordu. « Quelle honte » s'écria-t-il. « Tante Sophie, à quoi pensez-vous donc de faire de Lady Mabel une Jane Grey ou une Elizabeth Barrett Browning ?» Une femme qui est appelée à occuper une haute position ne peut jamais en savoir trop, répondit la duchesse d'un ton sentencieux. C'est vrai, Mabel épousera quelques grands diplomates, elle sera en relation avec des ambassadeurs. Et quand un de ces grands personnages s'approchera d'elle et lui parlera de la pluie et du beau temps, ce lui sera un grand avantage de connaître Platon, je comprends. En ce moment, le valet de pied vint avec un salut respectueux. Avertir la duchesse que sa voiture était à la porte. Mabel se leva immédiatement et alla souhaiter le bonsoir à sa tante. « Ma chère enfant, il est encore de bien bonne heure, » dit Lady Jane. « C'est la dernière soirée de Roderick, vous le savez, et votre mère n'est pas pressée. » Mabel regarda Roderick qui se chauffait, le dos appuyé contre la cheminée, tout en regardant le plafond d'un air distrait. Il paraissait fort peu s'inquiéter du départ de sa tante et de sa cousine. Vous savez que vous avez promis à papa d'être rentré avant 10 heures, sur quoi la duchesse se leva immédiatement. Elle avait l'habitude de céder à sa fille, ce que sa sœur, femme autoritaire, désapprouvait hautement. Dans l'opinion de Lady Jane, le premier devoir d'une mère était de commander à son enfant, le second de l'aimer. L'idée pouvait être juste, mais la pratique n'avait pas trop bien réussi avec Roderick. Adieu et bonne nuit, dit Lady Mabel, lorsque la femme de chambre lui eut apporté son manteau, que Rory l'aida à mettre. Non pas adieu, dit la bonne duchesse. Rory, il faut venir déjeuner demain matin pour voir le duc. Il vient précisément d'acheter du bétail magnifique, et je suis certaine qu'il sera heureux de vous le montrer, parce que vous êtes à même de l'apprécier. Il était trop fatigué pour venir ce soir, mais je sais qu'il désire vous voir. « Merci, j'irai, » répondit Rory, et il escorta les deux dames jusqu'à leur voiture. Mais Mabel ne prononça plus un mot jusqu'à ce que le brougham fût en route. « Quel horrible jeune homme est devenu Roderick, maman, » dit-elle lorsqu'elles furent sorties du parc. « Ma chérie, il devient au contraire un fort beau garçon. » « Je ne veux pas parler de sa beauté physique, la beauté chez un homme n'est que du superflu, mais bien de ses manières. Je n'ai jamais vu de garçon plus mal élevé. Il se gâte chez ses Tempest. » « Roderick, » dit Lady Jane, au moment où celui-ci cherchait à disparaître du côté du billard pour fumer un cigare, « j'ai besoin d'avoir un entretien sérieux avec vous. » Roderick frissonna de la tête aux pieds. Il savait trop bien ce que sa mère avait à lui dire. Il fit un mouvement d'épaule qui dénotait une résistance cachée et il rentra tranquillement au salon.